de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. Le président Joe Widodo participera au sommet d'urgence de l'OCI et rencontrera le président Biden pour discuter de Gaza. Le président Joe Widodo a inauguré le PLTS flottant Cirata. L'Indonésie souligne l'importance de la collaboration douanière lors du 39e CCC de l'ASEAN. L'Australie souligne l'importance des affaires durables avec l'Indonésie. Le WWF d'Indonésie apprécie les mesures rapides prises pour lutter contre les incendies de forêt et de terre. Le président du PSSI accueille le président de la FIFA en Indonésie. Voici le journal complet. Le président Joko Widodo participera au sommet d'urgence de l'Organisation de la coopération islamique, OCI, samedi le 11 novembre 2023 à Riyadh, en Arabie Saoudite. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère indonésien des Affaires étrangères, Lalu M. Iqbal, dans une déclaration reçue à Jakarta jeudi 11 septembre. Iqbal a déclaré que le sommet d'urgence de l'OCI se concentrerait sur l'évolution de la situation à Gaza et consoliderait les efforts conjoints des pays de l'OCI pour mettre fin aux atrocités actuelles d'Israël à Gaza. Le président Joe Widodo devrait également effectuer une visite bilatérale avec le président américain Joe Biden le 13 novembre 2023. Selon Iqbal, lors de sa rencontre avec Joe Biden, le président Joe Widodo transmettra la position de l'Indonésie concernant la situation à Gaza. Le président Joko Widodo a inauguré jeudi 9 novembre la centrale solaire PLTS flottant de Cirata dans la région de Purwakarta à l'ouest de Java. Dans son discours, le président a déclaré que la construction du PLTS est une des formes d'utilisation d'énergie nouvelle et renouvelable. À l'avenir, le potentiel du PLTS flottant Cirata sera développé pour fournir l'énergie à grande échelle dans la région de Java, Bali et Madura.
Cirata ini sudah ada PLTA dengan kapasitas 1000 MW.
À Cirata, il existe déjà une centrale hydroélectrique d'une capacité de 1000 MW et maintenant une centrale solaire flottante d'une capacité de 192 MW en pointe est ajoutée. À l'avenir, s'il est maximisé, cela pourrait ajouter environ 1000 MW en crête. La construction du PLTS flottant Cirata a reçu les éloges du ministre du Commerce extérieur des Émirats Arabes Unis, Tani bin Ahmad Al-Zayoudi. Le PLTS flottant Cirata occupe une superficie de réservoir de 200 hectares avec une capacité maximale de 192 MW en pointe et est le plus grand PLTS d'Asie du Sud-Est et le troisième au monde. La construction elle-même est une collaboration entre l'Indonésie via PLN Nusantara Power et une société des Émirats Arabes Unis, Master Clean Energy. L'Indonésie a souligné l'importance de la collaboration douanière lors de la 39e réunion de représentants des administrations douanières de tous les pays membres de l'ASEAN ou du 39e Comité de coordination des douanes de l'ASEAN, CCC. Le directeur général des douanes et accises Ascolani, dans une déclaration écrite citée par Antara, a déclaré jeudi que les douanes jouent un rôle important dans la chaîne d'approvisionnement logistique du commerce international. Les délégations des pays membres de l'ASEAN participent activement aux discussions concernant les procédures douanières et la facilitation des échanges, la conformité et l'application des règles dans le secteur douanier, ainsi que le renforcement des capacités dans le secteur douanier. Le ministre australien du Commerce, du Tourisme et de l'Investissement, Don Farrell, a souligné l'importance des affaires durables entre l'Indonésie et l'Australie pour accroître la valeur commerciale des deux pays. Il l'a transmis en ligne lors de la conférence d'affaires Indonésie-Australie IABC 2023 à Jakarta jeudi. Farrell a noté que la valeur du commerce bilatéral entre les deux pays a atteint un niveau record, à savoir 23,3 milliards de dollars américains, soit environ 364,8 billions de roupies l'année dernière. Dans ce partenariat, l'Australie se concentre sur 10 priorités principales, dont l'une est la transition énergétique propre pour atteindre zéro émission. Dans cet effort, les deux pays se sont engagés à travailler ensemble pour réduire les émissions et promouvoir des systèmes d'énergie propre, notamment par le biais du partenariat australo-indonésien sur le climat et les infrastructures d'une valeur de 200 milliards de dollars américains, soit environ 3103 milliards de roupies. La Fondation pour la conservation World Wildlife Fund, WWF, de l'Indonésie apprécie l'action rapide de l'équipe d'opération conjointe des agences gouvernementales dans les efforts de prévention et de gestion des incendies de forêt et de terre, Karhutla, afin qu'ils soient rapidement résolus. C'est ce qu'a déclaré jeudi le président directeur de WWF d'Indonésie, Aditya Bayunanda, à Jakarta, cité par Antara. Il expliquait que les efforts sérieux du gouvernement en déployant des milliers d'équipes conjointes d'opérations de lutte contre les incendies de forêt et de terre dans chaque région devaient être appréciés. La raison en est qu'il n'est pas facile pour les officiers de l'équipe opérationnelle de contrôler les incendies dans un contexte de sécheresse qui a frappé presque toute la région. Aditya a pris l'exemple de la gestion des incendies de forêt et de terre dans la province de Jambi. Il espère que les efforts de prévention et de contrôle pourront être encore optimisés afin qu'à l'avenir, les incendies de forêt et de terre puissent être véritablement supprimés, même arrêtés. En effet, les incendies de forêt et de terre ont non seulement un impact sur la sécurité humaine, mais menace également la population d'animaux menacés et protégés qui vivent dans la zone forestière de Jambi. Le président général de la Fédération indonésienne de football, PSSI, Erick Thohir, a accueilli jeudi le président de la FIFA, Gianni Infantino, après son arrivée en Indonésie. Dans son compte officiel sur les réseaux sociaux, Erick Thohir a déclaré jeudi qu'Infantino serait présent à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde U17 2023 en Indonésie au stade Gelora Bung Tomo de Surabaya vendredi 10 novembre, peu avant le match entre l'Indonésie U17 et l'Équateur U17 qui se joue à 18h heure locale. Infantino sera également présent à la clôture de la Coupe du Monde U17 qui se tiendra à Manahan Stadium Solo le 2 décembre. C'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Oh, Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici le commentaire intitulé « Déportation d'Afghans du Pakistan ». Le 1er novembre 2023, le ministère pakistanais à l'intérieur a donné des instructions à toutes les provinces pour expulser les étrangers illégaux du Pakistan. Le 3 octobre, le gouvernement pakistanais avait demandé à tous les ressortissants étrangers vivant illégalement au Pakistan de quitter volontairement le pays. Cette politique a particulièrement touché les réfugiés afghans au Pakistan parce qu'ils constituent le plus grand groupe étranger sans papier dans le pays. Selon le gouvernement pakistanais, environ 1,7 million d'Afghans vivent illégalement au Pakistan. Le gouvernement pakistanais continue de procéder à des expulsions des ressortissants étrangers illégaux, notamment des ressortissants afghans, malgré les appels de l'ONU et de Human Rights Watch à mettre fin à cette action. À ce jour, selon VOA, plus de 250 000 personnes ont traversé la frontière du Pakistan vers l'Afghanistan depuis l'ultimatum d'octobre. Le Pakistan affirme que la plupart d'entre eux sont partis volontairement, mais Kaboul a souligné qu'il avait été rapatrié de force depuis que la date limite du 1er novembre était passée. Le premier ministre pakistanais Anwar Ul Haq Kakar a déclaré mercredi, cité par VOA, que l'échec de l'Afghanistan a empêché les militants pakistanais d'opérer sur son territoire était la raison pour laquelle Islamabad avait expulsé des centaines de milliers de migrants afghans. Kakar, lors d'une conférence de presse, a révélé que les Afghans étaient également impliqués dans de nombreux attentats suicides et d'autres affrontements avec les troupes pakistanaises. Kakar a ajouté que 15 incidents d'attentats suicides ces derniers mois ont été perpétrés par des Afghans. Le premier ministre pakistanais a déclaré qu'il y avait eu une augmentation de 60% des incidents terroristes au Pakistan, qui a fait 2267 morts depuis que les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan en août 2021. Selon lui, les auteurs de l'incident terroriste utilisaient des bases en Afghanistan et des citoyens afghans étaient également impliqués. En revanche, Kaboul n'a pas pris aucune mesure malgré les fréquentes plaintes du Pakistan auprès des dirigeants afghans. Quelles que soient les raisons ou les considérations du gouvernement pakistanais derrière cette politique d'expulsion, le gouvernement pakistanais ne doit pas ignorer la question humanitaire. Pour des raisons humanitaires, l'ONU et Human Rights Watch ont appelé le gouvernement pakistanais à mettre fin à sa politique d'expulsion. Pour le bien de l'humanité, le gouvernement pakistanais devrait mettre fin à sa politique d'expulsion. Les conditions sociales, économiques et politiques actuelles en Afghanistan aggrave la vie des citoyens qui viennent d'être expulsés du Pakistan. Le ministre afghan du Commerce a admis que l'Afghanistan avait été frappé par diverses difficultés, y compris la sécheresse pendant des années, une économie presque paralysée et l'impact de la guerre depuis des décennies. Des millions de personnes sont devenues des réfugiés internes. Et selon lui, le retour presque simultané de millions d'Afghans du Pakistan serait certainement très difficile. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 10 novembre.
Thank you.
Le 10 novembre 1945 est célébré comme la journée des héros. En Indonésie, chaque année, le 10 novembre est toujours célébré comme la journée des héros. La commémoration de la journée des héros ne peut être séparée des événements de la bataille entre les combattants indonésiens et les troupes britanniques à Surabaya qui a eu lieu le 10 novembre 1945. Auparavant, le 28 octobre 1945, les troupes indonésiennes dirigées par Bung Tomo avaient commencé à attaquer les postes de défense alliés. Au combat, le 31 octobre 1945, le chef de l'armée britannique pour Java Oriental, Malabi, est tué par des combattants indonésiens. La mort de Malabi a fait des Britanniques à émettre des instructions selon lesquelles tous les dirigeants et jeunes indonésiens à Surabaya doivent arriver au plus tard le 10 novembre 1945 à 6 heures du matin à l'endroit désigné. Mais les habitants de Surabaya n'obéirent pas à cet ultimatum et la terrible bataille de Surabaya a eu lieu le 10 novembre 1945 pendant environ 3 semaines. Citant Semarang Kota Puang Go Puang Ide, la bataille de Surabaya a été la première guerre entre les troupes indonésiennes et les troupes étrangères après la proclamation de l'indépendance indonésienne. La bataille de Surabaya a été la bataille la plus grande et la plus dure de l'histoire de la Révolution nationale indonésienne. Environ 20 000 habitants de Surabaya, pour la plupart des civils, ont été victimes. On estime que 150 000 personnes ont été forcées de quitter la ville de Surabaya. Le nombre de combattants morts et de personnes qui ont été victimes à cette époque et l'esprit de ne jamais abandonner manifesté par les habitants de Surabaya ont fait de Surabaya une ville de héros. La détermination de la journée des héros le 10 novembre est basée sur le décret présidentiel numéro 316 l'année 1959, signé par le président Sukarno. Le 10 novembre 1965, Sukarno a annoncé la démocratie guidée. Le 10 novembre 1956, le président Sukarno a annoncé pour la première fois le modèle de démocratie guidée au sein de l'Assemblée constituante. La démocratie guidée est un terme désignant un gouvernement démocratique avec une autocratie croissante et fait partie du développement de la démocratie en Indonésie. Les idées du président Sukarno concernant la circonscription sont connues sous le nom de conception présidentielle de 1957. Les principales idées de cette conception sont les suivantes: en renouvelant la structure politique, un système démocratique guidé doit être mis en œuvre, soutenu par des forces qui reflètent les aspirations de la société de manière équilibrée. La formation d'un cabinet de coopération mutuelle repose sur un équilibre de pouvoir communautaire composé de représentants des partis politiques et de la force de nouveaux groupes politiques, groupes fonctionnels ou bien groupes de travail. Le 10 novembre est la journée mondiale de la science pour la paix et le développement. La journée mondiale de la science pour la paix et le développement a été lancée par l'UNESCO en 2015. La journée mondiale de la science pour la paix et le développement aide les scientifiques vivant dans la région à continuer de se développer. Cela est nécessaire pour faire prendre conscience aux gens que la survie doit être fondée sur la science. Pour créer une vie paisible, et une durabilité harmonieuse, il est important d'impliquer la communauté. C'est pourquoi cette journée mérite d'être célébrée. La Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement a été célébrée pour la première fois au niveau international en 2002. La commémoration implique des gouvernements, des organisations non gouvernementales, des scientifiques et d'autres professionnels. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Aku masih ingat, beranikan diri menyapa, percakapan singkat bermodalkan topik cuaca dan sebuah hari yang biasa saja berubah menjadi istimewa. Mungkin kau pun ingat, pernah ku tunggu semalaman. Pikir terlambat, tapi kau malah ketiduran, dan itu tak runtuhkan niatku. Ujian menuju hatimu. Ini aku yang tak menyerah, meski tak mudah menaklukkan hatimu. Biar waktu beri jawaban terindah. Upaya sudah maksimal, gagal pun tak jadi soal. Yang penting kau tahu, aku tak pernah ragu memilihmu. Sebuah hari yang biasa saja berubah menjadi istimewa. Ini aku yang tak menyerah, meski tak mudah menaklukkan hatimu. Biar waktu beri jawaban terindah. Upaya sudah maksimal, gagal pun tak jadi soal. Yang penting kau tahu, aku tak pernah ragu memilihmu.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers auditeurs, voici donc Mon Indonésie ayant pour le titre... Le KKP a lancé sa première exportation de 243 tonnes de produits de la pêche vers Fuzhou et Xiamen. Le ministre des Affaires maritimes et de la pêche, Sakti Wahyu Trenggono, a lancé jeudi 11 septembre à Jakarta la première exportation de 243 tonnes de produits de la pêche emballés dans 9 conteneurs vers Fuzhou et Xiamen en Chine. Des produits de la pêche exportés d'une valeur de 18,7 milliards de rupiah et d'un volume de 243 tonnes, comprenez 189 tonnes de calmar, 27 tonnes de maquereaux et 27 tonnes de pommes frais congelées. C'est ce qu'a déclaré le directeur général du renforcement de la compétitivité des produits marins et de la pêche du ministère des Affaires maritimes et de la pêche, au KKP, Boudé Sulistio. Il a également déclaré que la première exportation libérée par Muara Baru répondait à toutes les exigences d'exportation, y compris la certification de faisabilité de transformation SKP et disposait d'un numéro d'approbation d'exportation pour les exportations vers la Chine. Boudou Sulistio a également signalé qu'il y avait des acheteurs potentiels chinois intéressés par l'importation de produits de la pêche d'Indonésie. Les produits de la pêche demandés comprennent le calmar, le maquereau, le vivane rouge, le gulama et le merou, avec une demande totale d'environ 58 000 tonnes pour une valeur d'environ 3,4 billions de roupias. L'activité de lancement des premières exportations de produits de la pêche vers Fuzhou et Xiamen a également été réalisée pour célébrer le mois de dévotion maritime et de la mer du ministère des Affaires maritimes et de la pêche, KKP. C'est du retard, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Coba
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter les magazines culturels. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour le magazine culturel. Intitulé Le jardin Liwa, avec Maudry. Chers auditeurs, l'Indonésie possède une variété de beaux jardins botaniques. L'un d'eux se trouve sur l'île de Sumatra, à Liwa, pour être précis, la capitale de Lampung occidental. Le jardin botanique de Liwa fait partie de la zone du parc national de Bukit Barisan Selatan, TNBBS. Le jardin botanique de Liwa a été construit sur une superficie de près de 87 hectares et a été inauguré le 5 décembre 2017. C'est le seul jardin botanique de l'île de Sumatra. Le jardin botanique de Liwa a été construit en tant que centre de conservation de la flore, d'attraction touristique, d'éducation et de recherche. Le jardin botanique de Liwa est un lieu pour diverses collections de plantes rares. Il y a l'orchidée tigrée, également connue sous le nom d'orchidée géante, ou bien Grammatophyllum speciosum. Cette plante a une taille incroyable, peut atteindre 7,5 mètres. Le jardin botanique de Liwa possède également une plante de bagwood, Exbuklandia populnia, qui est de plus en plus rare et pousse encore naturellement dans la zone du parc national de Bukit Barisan Selatan, en particulier dans la région de Mont Pesagi. En dehors de cela, il existe également des plantes rares endémiques de l'île de Sumatra, telles que le lotus géant ou bien Rafflesia arnoldi, ou mieux connu sous le nom de fleur de Rafflesia, et la fleur de cadavre géant ou bien Amor Populus Titanum Bec, ou bien Suègue géant. La présence de ces plantes rares est la principale attraction pour les visiteurs du jardin botanique de Liwa. Le jardin botanique de Liwa possède différents types de plantes de pépinières, dont environ 98 types de plantes de pépinières, 96 espèces d'orchidées, 25 types de plantes de la famille des Araceae, 17 types de plantes de la famille des Begoniaceae, 11 types de plantes de la famille des Piperaceae, 8 types de plantes de la famille Nepenthaceae, 2 types de plantes de la famille Aeschynanthus et 1 type de plantes de la famille Oya. Il y a aussi un jardin médicinal planté d'environ 106 types de plantes médicinales ainsi qu'environ 170 types de plantes dans le jardin de collection. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent explorer et apprécier la beauté des différentes collections du jardin botanique de Liwa, vous pouvez vous promener sur le sentier pédestre de plusieurs centaines de mètres de long qui a été aménagé par le gestionnaire. Bon, chers auditeurs, c'est tout le magazine culturel.
Bye. berjumpa. Ku tahu kau mencuri tatapan kepadaku. Mungkinkah kita merasa getarannya sama? Mungkinkah kita seharusnya menyatukan rasa?
C'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Bonsoir à tous, voici l'Indonésie en couleur dans le titre et Solo entre dans la nouvelle liste des villes créatives de l'UNESCO 2023. La ville de Surakarta ou Solo Java Central est inscrite sur la nouvelle liste des villes créatives UNESCO. La décision a été prise le 31 octobre dans la catégorie artisanat et art populaire. Un communiqué publié sur le site officiel de l'UNESCO indique que les nouvelles villes sont reconnues pour leur fort engagement à utiliser la culture et la créativité dans le cadre de leur stratégie de développement. En plus de démontrer des pratiques innovantes en matière de planification urbaine centrée sur l'humain, la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, a déterminé qu'environ 55 villes viennent de devenir villes créatives. L'ajout de cette nouvelle ville étant la couverture de l'UNESCO à 350 villes dans plus de 100 pays dans le monde, représentant 7 domaines créatifs, dont l'artisanat et les arts populaires, le dessin, le cinéma, la gastronomie, la littérature, les arts médiatiques et la musique. Ces villes nouvellement dessinées travailleront ensuite avec d'autres membres du réseau des villes créatives pour renforcer leur résilience face aux menaces croissantes. Les menaces en question incluent le changement climatique, l'augmentation des inégalités et l'urbanisation rapide, avec 68% de la population mondiale qui devrait vivre dans des zones urbaines en 2050. Les villes du réseau des villes créatives prendront l'initiative d'améliorer l'accès à la culture ainsi que la mobilisation du pouvoir de la créativité pour la résilience et le développement urbain. Les 55 villes qui viennent de rejoindre les villes créatives de l'UNESCO seront ultérieurement invitées à participer à la prochaine conférence annuelle 2024 du réseau des villes créatives de l'UNESCO. Cette activité se tiendra à Braga, au Portugal, sur le thème « Emmener les jeunes à la table pour la prochaine décennie ». Parmi les villes qui viennent de rejoindre les villes créatives de l'UNESCO figurent Asaba en tant que ville du cinéma, Ahgabat en tant que ville de dessin et Bandia Luka en tant que ville de la musique.
Cukup sudah berkata-kata, cukup jangan banyak bicara. Kalau cinta bilang saja, tak perlu lama-lama. Satu, dua, tiga, kita jalani saja. Cukup sudah berkata-kata, cukup jangan banyak bicara. Kalau cinta bilang saja, tak perlu lama-lama. Satu, dua, tiga, oh, kita jalani saja. Tak perlu
Voice of Indonesia.
Hey boys, coba dengar aku. Ada yang perlu kau tahu. Ini cerita tentangku dan semua teman gadisku.
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute.
Les auditeurs de Voice of Indonesia, voici le magazine musical. Dans cet épisode, nous jouons une chanson intitulée Saibumi Rua Jurai de la province de Lampung. Le titre de cette chanson créée par Saiful Anwar est devenu le slogan et la devise de la province de Lampung. Saibumi Rua Jurai, qui signifie une terre de deux espèces, fait référence à la région de la province de Lampung qui s'étend du lac Ranau en passant par Wai Kanan jusqu'à la côte de la mer de Java, qui est riche en ressources naturelles, notamment en poivre et en clous de girofle. Étant abrite les Rua Jurai, où il existe deux types de populations de Lampung, à savoir les groupes autochtones côtières ou Saibatin et Pepadun, qui vivent dans les zones antérieures et les autres plateaux. La philosophie c'est bumi ruwa jurai est interprétée comme l'esprit d'unité entre les deux groupes communautaires pour faire progresser la province de Lampung comme leur maison commune. Bon, chers auditeurs, voici la chanson de Saibumi Ruwa Jurai chantée par Kanjeng Andi Ahmad Sampurnajaya. Bonne écoute!
Ya ujung danau ranau teliumi tuai kanan sampai pantai laut jauh pesisir ibu padu jadi saya di lom lamban Lampung saya kayu raya. Hijau nipu mandangan Puma lada di pumata Ati lagi cengkene Telambung beruntayan Tandani kemakmuran Sai sang bumi rua jurai Lampung sai sang bumi rua jurai Jama sebatin sinagawi adat sikan mandiawe sebambangan tari rakot melincing cirini ulun Lampung Jama sebatin sinagawi adat sikam mandiawe sebambangan tari rakot melinting cirini ulun Lampung Lampung
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt!